Ça donne envie de danser cette petite musique-là. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Voilà une rencontre qui me tient particulièrement à cœur, parce que je dois dire que j'avais été extrêmement impressionné par Le Grand Marin, le précédent livre de Catherine Poulain, et que là, j'ai lu Le Cœur Blanc qui va sortir la semaine prochaine. Et personnellement, je l'ai trouvé encore plus beau, encore plus fort que le précédent. Je suis certain que Catherine Poulain est vraiment un écrivain. Je sais qu'elle a d'autres projets, tout un matériau comme ça, dans lequel elle puise depuis Le Grand Marin. Donc on va en parler d'ailleurs, mais j'imagine qu'il y aura des livres derrière. En tous les cas, je le souhaite vivement. Donc Le Cœur Blanc, le nouveau roman de Catherine Poulain qui sort à l'Olivier la semaine prochaine. Alors, je vais aller assez vite... Sur la présentation, on va au fur et à mesure dire les choses. Catherine Poulain, en fait, aujourd'hui, presque tout le monde connaît son histoire parce qu'à la sortie du Grand Marin, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que cette histoire, elle est très singulière et très forte. La voyageuse, la grande voyageuse, son séjour de 10 ans en Alaska entre 1993 et 2003, avec cette campagne de pêche sur des bateaux, ces campagnes de pêche extrêmement rudes, dans un milieu essentiellement ou presque exclusivement d'ailleurs masculin. Donc des bateaux où elle était la seule femme. Donc toute cette histoire, on la connaît, on sait que c'est pas, bien sûr, ce sont des romans, il ne s'agit pas du tout d'autobiographie, mais c'est quand même l'inspiration. De ses romans épuisés dans le matériau de la vie de Catherine Poulain. Il y a eu un succès fulgurant, en fait, c'est rare, des succès comme ça pour un premier roman, un auteur qui arrive comme ça dans les librairies et que personne ne connaît, le Grand Marin, qui a eu de très nombreux prix, qui a déjà de multiples traductions en langue étrangère, une adaptation au cinéma qui est en cours, c'est quelque chose d'assez rare. Alors ça serait peut-être ma première question, Catherine. Comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce que vous vivez encore ce succès fulgurant de ce premier livre ?
Alors, le succès du Grand Marin a d'abord été une stupéfaction. Je ne comprenais pas. Et je n'ai encore pas compris ce qui s'était passé avec. Une certaine déroute après, quand même, parce que tout ce... Toutes ces médias, toute cette la vie qui est un petit peu quand même qui est un peu mise à jour, quoi. C'était. J'ai arrêté mon travail avec les brebis, donc un travail bien physique qui était des racines bien réelles, bien. Et il a fallu quand même, oui, retomber sur ses pattes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce qui est très très important, c'est de faire ce second livre. Il faut que j'y arrive. Et là, j'étais un peu paralysée, un peu tétanisée, en me disant comment je vais faire. Est-ce que je suis pas parlé ? Est-ce que je saurais encore faire quelque chose ? Vu que tout est au grand jour. Je dis souvent aux gens, est-ce que c'est pas comme la chambre noire du photographe ? Est-ce que si on met la lumière, si on amène le jour, est-ce qu'on brûle pas tout ? Et donc j'ai réussi à faire ce livre et c'est un énorme soulagement.
Oui. C'est un énorme soulagement et c'est un grand plaisir pour vos lecteurs. Alors c'est vrai que depuis 2003, vous avez fait l'école de bergerie de Salon de Provence, vous avez été bergère du côté de Digne. Vous m'annoncez ça, je ne savais pas que vous avez arrêté ce travail. D'une certaine manière, est-ce que vous diriez que maintenant, avec le temps donc, que vous libérez, est-ce que vous diriez que vous êtes écrivain aujourd'hui ?
C'est un mot qui me gêne beaucoup. Je me suis parfois posé la question, je me suis dit, est-ce que j'étais pas plus écrivain avant, quand j'écrivais toute seule, ou est-ce que je l'étais en tout cas certainement autant. Est-ce qu'un écrivain, c'est celui qui est publié ? Est-ce que c'est le succès ? Je pense pas. Il y a une petite fille qui était venue me voir une fois, après une rencontre en librairie, et qui m'avait demandé comment on fait pour devenir écrivain. Alors je lui avais dit, tiens, m'écrire ? Elle me dit, oui, j'écris tous les jours. J'ai dit, alors t'es un écrivain. Donc oui, cette... Bon, oui, je ne sais pas. J'ai fait un premier livre, j'ai réussi à en faire un second. Et est-ce que ça marchera pour un troisième ? On espère toujours, mais ce sont des choses... Est-ce qu'on peut les... Est-ce qu'on peut vraiment les contrôler ou les diriger ? Ou est-ce qu'un jour, la magie, ça peut s'arrêter ? Je ne sais pas.
Alors, on sait que toute votre vie, vous avez écrit, effectivement, depuis très longtemps. Vous avez écrit sur des carnets, vous avez de très nombreux carnets. Donc, au fur et à mesure de vos expériences de vie, vous les avez consignés dans des carnets. Et c'est à partir de ce matériau qu'aujourd'hui, vous composez vos romans, que vous avez composé Le Grand Marin et maintenant Le Cœur Blanc. Alors, j'aimerais bien vous poser la question de quel lien vous faites entre la réalité et la fiction, parce que là, ce sont quand même des fictions, même si c'est, vous utilisez le matériau de votre vie. Quel lien vous faites entre l'écriture et la vie ?
Alors, on m'a souvent parlé de l'écriture, en me disant, sans écriture, maintenant, l'écriture doit être la seule chose qui compte. Et j'ai dit, je ne peux pas. Avant tout, c'est la vie qui compte. Et c'est le monde physique, le monde bien réel, et ça doit être le matériau. C'est le matériau de notre vie qui... Pour certains, ce sera... Comment dire ? C'est le matériau de notre vie par lequel on doit accomplir quelque chose. Donc pour certains, ce sera l'écriture, d'autres ça peut être la peinture, d'autres ça peut être un certain... un travail social, un travail... Donc nos vies ne sont que des matériaux. Donc là, je sais qu'on va encore me poser la question en me disant, êtes-vous l'une des saisonnières ? On m'a déjà dit, vous devez être Rosaline puisqu'elle est maigre. Bon, j'ai dit, je ne suis ni l'une ni l'autre. Mais évidemment, je me sers évidemment de certains ressentis mais qui dit que je ne suis pas le petit Abdelman qui chante tout le temps ? Il y a un jeune gars, Abdelman, qui chante et qui chante et qui chante et qui... Peut-être qu'au fond, je suis Abdelman plus que les autres. Ça, c'est le mystère, c'est le secret.
Alors justement, on va rentrer dans ce nouveau livre, dans le Cœur Blanc. Vous avez puisé dans l'expérience, effectivement, de saisonnière agricole que vous avez eue, les cueillettes, des abricots, des tilleuls, des pommes, des lavandes, des olives, les vendanges, etc. C'était à la fin des années 80, début des années 90, si j'ai bien compris, en croisant les choses. Mais vous avez raison, peu importe, on n'est pas du tout dans l'autobiographie, mais c'est intéressant de savoir que vous puisez dans ce matériel de la vie. Alors, la première question que je voulais vous poser, parce que ça me frappe beaucoup et ça m'intéresse beaucoup, c'est que aussi bien dans Le Grand Marin que dans Le Cœur Blanc, vous parlez de gens dont en général on ne parle pas, et en littérature notamment. Est-ce que pour vous, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire de montrer la vie de ceux dont en général, qu'on laisse en général dans l'ombre ?
Ceux qui m'ont toujours attiré, j'ai l'impression que c'était mes frères, c'était ma famille, c'était... Quand j'étais saisonnière, c'est vrai que lorsque nous travaillions toute l'année ensemble, les hivers étaient parfois assez difficiles, assez rudes. Nous étions coupés du monde et nous étions quand même comme une famille parfois un peu sauvage, un peu brute. Et j'aimais leur... Comment dire ? Ils étaient hors des normes. Et ce qui est hors norme, en fait, me plaît beaucoup, puisqu'on est hors des sentiers battus. Donc là, tout est possible. Et dans ce livre, tout est possible jusqu'au pire, quoi. Parce qu'il n'y a rien pour arrêter les choses. Et quand tout s'embrase, tout s'embrase. Mais oui, j'aime ce qu'on appelle les losers. Pour moi, ce sont les vrais héros.
Vous montrez également, ça c'est très frappant dans vos deux livres, le côté physique Vous dépeignez les gens d'abord. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre. On va en parler, on va venir dans le détail. Ce qui est très intéressant, c'est que toujours, vous êtes d'une certaine manière, c'est à la manière aussi du roman américain. Il y a un côté behavioriste, comme on dit. C'est-à-dire, c'est très physique. Vous montrez les gestes, vous montrez les corps en action, vous montrez les sensations, le froid, la chaleur, la rudesse, la chaleur trop forte les étés à certaines cueillettes, la rudesse du travail, la souffrance, ça c'est d'abord ça que vous montrez, et c'est ça de votre, comment dire, votre outil premier dans votre écriture.
Et oui, pour moi c'est la base de tout. C'est d'abord ce que l'on sent, ce que l'on ressent, et c'est le corps. Pour moi c'est le corps de l'écriture, ou le corps de, ça serait de la peinture, de la création. C'est d'abord je ne veux pas être dans l'idée. Les idées, elles viennent après, elles viennent dans ce que l'on... Après que l'on ait vu des choses, après que l'on ait été témoin de certaines choses. Donc l'idée vient. Mais l'idée... La première des choses, c'est ce qui se sent, ce qui se... Et dans l'écriture, il faut absolument que ça ressorte. Si un jour j'écris par l'idée... En ayant perdu ce sens physique des choses, alors je crois que j'aurais raté, quoi, je serais fini.
En tous les cas, c'est ce qui donne cette puissance extraordinaire à vos phrases, à votre livre. Alors il y a quelque chose qui me frappe aussi dans les deux livres, et en particulier dans celui-là, c'est la manière dont vous montrez, dont vous faites sentir, dont vous faites toucher au plus près l'épuisement, la fatigue. Et ce qui est très intéressant et troublant en même temps, c'est que d'une certaine manière, vous montrez qu'il y a un bonheur dans cette fatigue. Et je voulais qu'on parle de ça. Quel peut être ce plaisir de l'épuisement, ce plaisir d'aller au bout de ses forces?
Et oui, c'est un peu comme dans Le Grand Marin, ça. Pour finir, les choses se retrouvent toujours. Eh bien, c'est encore cette recherche de... Pour moi, il y a une volupté dans l'épuisement. Surtout en pleine nature, avec les éléments, avec les... Et surtout, se donner à fond. Elle le dit bien, Mounia, elle dit que lorsqu'elle est sous le soleil, elle dit que l'effort est un acte d'amour, des épousailles folles avec le soleil, c'est ne faire qu'un, retrouver une unité avec les éléments, avec la nature. Et ça, il faut être souvent arrivé parfois au bout de ses forces pour toucher ce degré de... Alors une fois de plus, je sais, on dira que ça peut être les endomorphines, peut-être. Mais il y a quand même la brûlure du soleil. Là, c'est pas le froid dans celui-là, c'est la brûlure du soleil. Et lui tenir tête, toujours résister, combattre et tenir tête pour après ne faire qu'un avec le soleil. Ouais.
Et se sentir vivant, en fait, là-dedans.
Oui, sentir vivant de tout son corps. Oui.
Alors... On va parler, bien sûr, des deux personnages qui émergent, deux femmes dans un monde essentiellement masculin. D'ailleurs, à nouveau, on va en parler. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de l'ensemble des personnages que vous mettez en présence dans Le Cœur Blanc. Ce sont des précaires. Ce sont des gens qui, souvent, sont dans des situations quand même de misère, au-delà de la précarité. Ils vivent comme ils peuvent, dans des squats, etc. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et il y a quelque chose d'assez violent dans le livre, c'est qu'ils ont parfaitement conscience de la manière dont on les méprise. Et notamment, juste une toute petite citation, page 115, elle se compare aux abricots du rebut. Les abricots du rebut, les vilains petits fruits tout piqués, tavelés, tordus, les invendables qu'on balance dans le cajot pour la pulpe. Ça c'est très puissant, et ces personnages que vous mettez en mouvement, ils ont ce sentiment. À la fois ils sont à la marge, mais ils ont le sentiment aussi qu'on les garde à la marge, qu'on les méprise.
Oui, mais il y a aussi lorsque Rosaline dit ça, elle dit aussi, mais peut-être il y a peut-être aussi un malentendu là derrière. En aucun cas je ne voulais ce n'était pas une critique contre le monde agricole. C'est ce malentendu, c'est j'ai essayé de parler de ces agriculteurs avec beaucoup de respect, de parler de leur épuisement et leur mais c'est comme un grand malentendu. Eux, ils ont les terres, ils ont un pays, ils ont des terres à protéger, ils ont des et il y a ce troupeau de saisonniers de va-nu-pieds, de pu-des-pieds, de boissons soif qui débarquent tous les étés, qui tombent sous au bord de la rivière et qui eux qui n'ont plus ni règles ni donc c'est... Il est certain que ils ont peur. Et de plus, les saisonniers ont une certaine, on dirait presque une certaine fierté, parce que en fait, ils n'ont plus de racines. Ceux-là, dans ce livre, n'ont plus de racines. Sont donc ils sont presque fiers d'être des. Alors ils se disent, l'un se dira libertaire, moi je suis libertaire. Alors ils se cherchent des raisons de.
C'est vrai que ce qui est formidable dans le livre, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. C'est-à-dire vous montrez les choses et vous restez là. Et il n'y a jamais de jugement. Et effectivement, c'est toujours extrêmement nuancé. Et quand vous montrez les propriétaires qui engagent les saisonniers, effectivement, vous montrez aussi la difficulté de leurs conditions aussi à eux, la difficulté de pour arriver à s'en sortir, en fait.
Sauf les premiers. En fait, le au commencement du livre, ce sont des Marocains sans papier, la plupart. Et là, les patrons sont vraiment des gens infâmes. Et l'histoire donc dure. Il y a ces premières images qui se passent dans les champs d'asperges. Et après, c'est 10 ans plus tard. Au début, c'est 86, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président au Portugal et les fruits tardifs d'une révolution. Bref. Et les fleurs et les œillets tardifs de la révolution. Et 10 ans plus tard, donc, ce sont des saisonniers, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Ceux-là n'ont plus du tout de racines. Ceux-là ne savent même plus tellement se tenir droit, tellement souvent ils sont sous, ils ont pris des cachetons. Mais. Et malgré tout, sont des saisonniers tous les deux. C'est aussi bien pour mieux expliquer le parcours de Rosalind. Mais ça, c'est peut-être encore une autre.
Oui, justement, on va y venir parce que une nouvelle fois, vous montrez un monde d'hommes, un monde assez, plutôt quand même majorité masculine. En tous les cas, ce sont les règles viriles qui dominent. Et en fait, le roman est dominé par deux figures féminines. À nouveau, comme dans le Grand Marin. Ma première question avant, on va faire le portrait, on va essayer de parler de Rosalind et de Mounia. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans cette configuration de femmes luttant pour exister dans un monde essentiellement masculin?
Alors au début, je voulais écrire l'embrasement de l'honnêteté. Si les choses ne s'arrêtaient pas, si il n'y avait pas de garde-fou, tout d'un coup, qu'est-ce qui arriverait si tout s'embrasait, si les gens allaient au bout de leur folie, peut-être. Mais depuis très très longtemps aussi, depuis que j'étais saisonnière, je voulais parler aussi des abricots du rebut. C'était important, ça me tenait à cœur. Ces gens qui se ressentent, qui sentent les rebuts. Puis je voulais aussi parler du racisme, d'un autre racisme dans d'autres campagnes. Je me dis, il faudrait essayer, est-ce que je pourrais faire quelque chose de tout ça? Et donc, à travers ces deux personnages de femmes, je me dis, il faut bien l'étincelle pour. Il faut quand même qu'il y ait une certaine. Il n'y aurait que des hommes, ça n'aurait pas pu faire. Ou des femmes ensemble. Il faut qu'il y ait cette espèce de petit.
Parce que les femmes, elles déstabilisent en fait les choses. Et puis il va y avoir, bien sûr, on va en parler avec Rosalind, va y avoir le désir, et ça c'est un moteur extrêmement puissant. Ça va être d'ailleurs un des éléments de la tragédie, on va en parler, qui petit à petit se met en place, parce que ce livre, au total, c'est une trajectoire impeccable, magnifique de tragédie. On dira, évidemment, on ne va pas dire jusqu'où va le livre et dire la fin, ce serait trop dommage. Mais c'est ça. Et donc, effectivement, le fait que ce soit des femmes, ça déstabilise et ça amène ce désir qui est tellement fort qu'on sent dans votre écriture, qui est un des moteurs qui donne l'énergie aussi à ce livre, et d'une certaine, à la fois sa douceur et sa violence.
Oui. Et puis ces femmes étaient importantes. Ces femmes étaient importantes. C'était comme, ce sont les deux regards sur le. Enfin, le regard, c'est surtout Mounia. Rosaline va tout cristalliser. C'est le petit.
Alors justement, on va parler d'elle, on va parler de Rosalind. Alors elle vient d'Allemagne, c'est assez flou, d'ailleurs c'est pas quelqu'un qui aime s'épancher, raconter sa vie et tout, mais elle est née des brumes, ça va être la différence avec Mounia qui est née du soleil. Ses parents sont du Maghreb, ils sont venus en France, elle ne connaît pas d'ailleurs son pays d'origine, mais bon, on va venir à Mounia après. Alors Rosalind, comment vous la présenteriez? Et puis qu'est-ce qu'elle cherche en fait, Rosalind?
En fait, je ne sais pas. J'avais ce personnage, Rosalind, même moi-même, je ne sais pas d'où elle vient exactement. Je dis, elle reste mystérieuse aussi pour moi. On sait qu'il y a eu quelque chose, peut-être, puisqu'elle cherche quelque chose, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce que c'est le passé de ses parents? Est-ce qu'il y a une histoire loin derrière, puisqu'il y a quelques mots à la fin, où elle dit, on ne sait pas. Certains me disent qu'elle a connu des violences plus jeunes. Moi, je ne sais pas. On dit, elle vit comme quelqu'un qui... peut-être, je ne sais pas. Mais il y a la grande rencontre avec Ahmed. Ça, c'est un truc très, très fort qui va la suivre tout le long du livre, qui est comme le cœur blanc.
Oui, parce que c'est Ahmed, cet homme, c'est au début du livre, dans ce que vous disiez tout à l'heure, donc la première partie du livre, et c'est lui qui va lui donner ce nom du cœur blanc, du cœur pur. Ouais. Alors, elle dit, par exemple, à un moment, page 14, donc c'est très vite, c'est justement au moment où il y a ce lien avec Ahmed, elle dit, je n'ai pas envie d'être à l'abri. J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je ne sais même pas. C'est une petite personne qui arrive, qui est mystérieuse. Et on en rencontre beaucoup. On en rencontre de ces gens. Est-ce que Sandrine Bonner dans Saint-Antoine et Lois, c'était pas la même chose? On ne sait pas grand-chose de sa vie. Une petite nana qui fait les saisons et qui vient du Nord et qui a voulu se désamarrer à tout jamais, comme elle dit, et qui cherche quelque chose. Et puis, voilà, ça reste le mystère.
Oui, c'est ça, c'est ce qui fait la beauté du personnage. Elle cherche en fait une place.
Elle voudrait comprendre. Peut-être qu'elle veut comprendre par rapport à l'injustice ou par rapport à quelque chose de... du monde qui est terrible. Elle voudrait comprendre.
Oui.
Pourquoi ça... Mais c'est quelque chose de... Oui, par rapport au fonctionnement du monde, par rapport
à l'injustice du monde.
Sans doute, oui.
Oui.
Oui, sans doute.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est en recherche permanente. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui constamment se pose la question justement de sa place et du chemin qu'elle va accomplir. Elle parle souvent de la route. D'ailleurs, elle dit à un moment, page 52, je veux travailler et continuer ma route. Alors, c'est vrai que cette route-là, c'est flou, mais pour elle, c'est très important. Elle cherche à devenir quelque chose. Elle a l'idée d'un chemin à mener. C'est une recherche quasiment existentielle, en fait.
Oui, oui, oui.
Alors, il y a peut-être aussi quelque chose d'autre qu'on pourrait dire pour définir Rosalind, qu'on sent tout au long du livre, c'est qu'elle porte en elle une colère très forte, il m'a semblé. Peut-être qu'elle ne sait pas bien exprimer, peut-être une colère diffuse qu'elle-même ne saurait pas bien définir, mais moi je l'ai senti comme ça, je ne sais pas si vous la voyez comme ça, c'est une question, hein. Moi je l'ai lu comme ça, elle a quelque chose en elle d'une irréductible colère.
Oui, et puis un désespoir. Quand elle dit la route est nue devant nous, il n'y a rien, le désert, donnez-nous notre Père, notre rien quotidien. Elle dit, qu'est-ce qu'on y croit fort en notre rien ? Donnez-nous notre père, notre rien quotidien.
Oui. Ouais, c'est un personnage absolument magnifique qui poursuit le lecteur bien après d'avoir refermé le livre. Et puis alors, dans la vie de Rosalind, il y a les hommes. C'est une belle femme, c'est une rousse irradiante. Elle est un objet de désir extrêmement puissant. Tous les hommes, en fait, sont après elle. Elle est ambiguë parce qu'à la fois, elle les cherche et en même temps, elle les craint. Et dans ses relations avec les hommes, j'ai trouvé, vous allez me dire si vous êtes d'accord, il y a un mélange extrêmement intéressant, à la fois de désir, d'amour, mais aussi de fraternité.
Peut-être en tout cas avec Acacio, oui.
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 Je suis la femme de personne. Elle l'affirme ça à plusieurs moments. Et ça correspond à quoi ? Je suis la femme de personne. Elle le répète en permanence, Rosalind. Qu'est-ce que c'est ? C'est une volonté de liberté, la volonté de pouvoir poursuivre sa route comme elle l'entend. Est-ce que ça correspond aussi à un moment où on est dans les années 80, où les relations encore entre les hommes et les femmes, où il y a quand même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais encore plus fort à ce moment-là, une domination masculine très puissante, et elle ne veut pas être la femme de qui que ce soit.
Oh non, elle ne veut pas. Elle se sent petit gibier des bois parfois, mais c'est un petit gibier des bois et une bête sauvage, elle ne s'attrape pas.
Oui, c'est exactement ça. Mounia, alors venons-en à Mounia, c'est la deuxième figure féminine importante du livre. Alors elle vient du soleil, je disais tout à l'heure, hein, ses parents sont venus du Maghreb. Elle rêve d'aller d'ailleurs dans ce pays d'origine, elle dit qu'elle va partir à Gibraltar et de là elle passera. Mais en fait elle ne connaît pas du tout ce pays d'origine, d'ailleurs elle ne sait pas trop quand on est à Gibraltar, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est le Maroc ou l'Algérie, elle ne sait pas trop. Alors elle... Est-ce que ça, c'était volontaire au début ? C'est autant Rosalind était la fille des brumes, autant elle est solaire, elle aime danser, c'est la fille du solaire. Il y a un petit peu comme ça l'ombre et la lumière avec ces deux personnages.
Oui, oui. Et pour finir, elle se complète. Comme elles disent, nous sommes toutes les deux habitées par le feu aura notre peau. Elles recherchent toutes les deux la morsure, l'une des hommes et l'autre du soleil et du...
Et alors, tout à l'heure, vous y avez fait une allusion, et c'est très important dans la manière dont le roman est composé. Mounia regarde, elle observe, elle raconte ce qu'elle voit. Et Rosalind est regardée par tous, et en particulier par les hommes. Ça aussi, c'était conscient, vous avez voulu cette opposition-là entre les regards dans les deux sens. Il y en a une qui a regardé, l'autre qui regarde.
Non, je n'ai pas réfléchi. Non. Et cette petite Mounia qui est pleine d'amour et qui se mord la lèvre parce que pour pas pleurer et qui est une petite boule de... Non, j'ai juste vu ces femmes qui se rencontraient et qui tout d'un coup
qui vont essayer de se soutenir aussi, hein.
Oui. Et qui vont s'aimer.
Oui, ouais. Ça va aller jusque-là. Alors il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que le roman est écrit à la troisième personne du singulier presque tout le temps. À certains moments, il y a un jeu qui intervient, donc première personne du singulier. Et ce jeu, il est pour l'essentiel, bon, il y a quelques exceptions, il y a notamment le portugais libertaire, à un moment il dit jeu, mais sinon, quand vous utilisez le jeu, c'est toujours pour Mounia. Pourquoi ?
Parce que c'est elle qui... C'est peut-être elle qui va s'en sortir avec Césario ? C'est elle qui va quitter, qui va s'enfuir, parce que la fuite... Ce livre est venu aussi, parce que, suite au Grand Marin, on m'a tellement posé la question, pourquoi la fuite ? Et pourquoi fuir ? Je me suis dû leur montrer des raisons de s'enfuir. Comme quoi la fuite, c'est pas la fuite, c'est la survie. Et parfois, c'est la seule personne qui peut rester debout. Bon, Césario s'en va, lui, c'est même plus une fuite, mais lui s'en va toujours. Mais... Et donc, il me fallait ce petit personnage, Mounia, qui partira et qui suit aussi, qui entre parfois dans la danse et dans les... Mais peut-être à cause de la tragédie. C'est la tragédie, sans doute, qui va la faire partir. La tragédie, souvent, c'est le coup de pouce qui vous sauve la vie, peut-être.
Sur cette question de la fuite, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que, effectivement, ils ont toujours envie de partir, ils ont tous un rêve d'ailleurs. Et ils exposent tout au long du livre, et notamment quand ils sont dans les bars, au moment où on se confie un peu, parce que pour la plupart, ce n'est pas des gens qui se confient beaucoup, c'est plutôt des taiseux, mais ils parlent de, voilà, ils rêvent d'un ailleurs et tout. Mais je me suis demandé, est-ce que finalement ils fuient, ou est-ce que plutôt ils répondent à un appel ? Il y a un appel en eux pour aller vers un ailleurs. Est-ce que c'est vraiment une fuite ?
Oh, mais c'est toujours la question de la fuite. Quand on dit de quelqu'un qui fuit, on dit qu'elle fuit, est-ce que c'est pas plutôt aller vers quelque chose ? Là, je me suis toujours dit, mais en fait, c'est un drôle de mot, la fuite. On pense à Éloge de la fuite de Laborite, et qui dit un voilier, en fait, lorsqu'il tous les vents sont contraires, eh ben, s'il vire de bord, c'est pas fuir, c'est la survie, puis c'est qu'autrement, il n'ira nulle part, si ce n'est pire.
Alors, vos personnages sont tous d'une certaine manière enfermés. Ça, c'est un thème qui revient dans le livre à plusieurs reprises. Ils sont plutôt solitaires et d'une certaine manière, ils tournent en rond. C'est-à-dire, ils rêvent d'ailleurs, mais leurs départs sont toujours ajournés. Ça c'est très fort et c'est très beau dans le livre. Est-ce que c'est quelque chose, d'une certaine manière, une métaphore de la condition humaine ?
Parfois, je pense, en tout cas, il y a énormément d'êtres humains qui, justement, c'est ça qui les tue. Ils tournent en rond parce qu'ils n'ont plus de raison de... J'ai pas... Alors, Rosaline dira combattre, mais... une raison de vivre, tout simplement. C'est être ballotté d'une saison à une autre, se mettre dans des états incroyables pour aller toujours plus fort dans le feu, d'accord, mais... Il y a ce manque toujours, ce manque de... Il y en a... Certains vivent par rapport au combat de leurs parents, comme Acacio, la révolution du Portugal. Il ne parle que de ça, parce qu'il n'a pas son combat à lui. Mounia, c'est aussi quand même la tragédie de ses parents qu'elle porte en elle. Donc, ils n'ont pas leur de propre... Ils n'ont plus de moteur réel. Donc oui, ils tournent en rond, ils tournent.
Et alors Mounia, à un moment, elle dit, page 75, « Nous vivons sous ce ciel. » Parce que ça, peut-être on en parlera, les paysages, les ciels et tout, parce que c'est tellement beau et c'est tellement important, parce que les personnages sont toujours connectés d'une certaine manière à la nature, à l'univers et tout, et ça vous le montrez très bien. « Nous vivons sous ce ciel en animaux domestiqués. Chacun s'en accommode. » Pas moi. Et là, il y a quelque chose, tout à l'heure, vous disiez quelque chose de l'idée, je ne sais plus quel exemple vous avez pris, mais des animaux sauvages, en fait, qu'on n'arrive jamais à attraper. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, dans un éloge, en fait, de cette forme-là de liberté, de refuser la domestication dans le sens où elle est... une coupure de la liberté.
Oui, et on peut dire que ces deux femmes vivent ne veulent pas vivre en animaux domestiqués. Et Césario non plus, cet homme, le grand sage, échappe aussi à tout ça. Mais il y en a Lucia peut-être aussi, la louve noire. Elle aussi, elle regarde tout ça d'un air... Mais ils sont très très peu. Tous baissent le dos et ont accepté, en fait. Courbent les épaules et ne voient pas plus loin que l'alcool. Mais j'espère qu'ils sont attachants quand même.
Bien sûr, ils le sont. D'ailleurs, c'est difficile, en lisant votre livre, de ne pas se sentir questionné par tout ça, même si on est loin de... Même si on exerce, je sais pas, une activité qui n'a rien à voir avec leur activité. C'est un roman extrêmement universel. Et la lecture du livre invite le lecteur à se poser beaucoup de questions. Alors, je parlais tout à l'heure des ciels. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on en parle. Vous avez il y a une grande place, en fait, pour la nature dans ce livre, comme dans le précédent. À la fois, vous exaltez... magnifiquement, parce que là, sur l'écriture, c'est absolument sublime, je trouve, vraiment, la beauté de la nature, et en même temps, vous en montrez, dans le même mouvement, le danger, la sauvagerie, en fait.
Et puis le côté impitoyable, parce que ce ciel immense, ce ciel magnifique, eh bien, il reste toujours muet et aveugle, comme ils le disent parfois. C'est un désespoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mystique parfois dans la course de Mounia sous le soleil à vouloir toujours plus se brûler, et même un peu dans Rosalinde, mais ce ciel, il leur échappera toujours. On ne peut pas. On n'est que des êtres humains sur la terre et plantés sur la terre avec nous. Et c'est cette nature magnifique, immense autour de nous et qui n'est que, on ne peut qu'être des petits animaux là au milieu, puis rien de plus.
Mais c'est vrai qu'on est presque proche de l'expérience spirituelle à certains moments. Il y a une façon justement de vivre là, voilà, sous le ciel, dans la nature. Mais il y a quelque chose qui relie à l'univers, en fait. Ça c'est très puissant dans le roman. Alors, je voudrais qu'on parle des bars, parce que les bars, ils sont très importants, comme il était dans le Grand Marin. En fait, le c'est vrai que beaucoup boivent beaucoup. C'est un endroit, c'est le repos. Évidemment, le soir, on est très fatigué. C'est l'endroit où on se retrouve. Souvent, ils vivent dans des cabanons ou dans un petit camion Volkswagen, etc. Et donc, c'est vraiment le havre. À un moment, vous utilisez l'expression, la métaphore en parlant des bars, des lampions dans la nuit. C'est très très beau. Alors j'aimerais bien qu'on en parle. C'est quoi, c'est l'ivresse comme délivrance?
Au début, je pense que lorsque c'est l'été, le premier verre est quelque chose d'extraordinaire. On a eu si soif, comme elle dit tout le jour, là, la bière, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et elle dit après, un verre on appelle toujours un autre. Et après, jusqu'au moment où on dit que des inepties, que des imbécilités, le pire c'est qu'on y croit. Mais nous sommes les fruits d'une race increvable, la mauvaise herbe qui ne meurt jamais. Mais l'hiver, ce n'est pas du tout la même chose. L'hiver, c'est vraiment la solitude, le froid qui fait que le bar, c'est un bar. C'est pour. Qu'est-ce qu'on ferait tout seul dans son petit cabanon à la lumière de la bougie, à se geler?
C'est le moment aussi où les masques tombent.
Oui, oui. Et puis tout simplement, c'est aussi la fête, c'est aussi le. Et puis pour certains, c'est l'habitude, ils sont tombés dedans, et puis il n'y a plus que le bar. C'est vrai, travail ou bar, et il n'y a rien d'autre.
Alors le roman est plutôt sombre, en tous les cas sa trajectoire, puisque ça va se terminer en. Alors là, on ne peut pas en parler, mais ça va se terminer en tragédie. Alors même s'il y a des fulgurances de lumière, des fulgurances poétiques dans ce livre qui fait que c'est beaucoup moins sombre en fait que ça n'y paraît, même si le contenu est quand même très sombre. Moi j'ai pensé, alors je voulais savoir si c'était des romans que vous aimiez, c'est de la littérature, je pense à la littérature américaine, et je pense à des auteurs comme Larry Brown par exemple, ou Chris Offutt, ou des gens comme ça. Est-ce que ça fait partie, est-ce que vous avez des inspirations, je dirais littéraire, bon, j'imagine que bien sûr, mais est-ce que par exemple la littérature américaine fait partie de vos références?
Oh, j'aime beaucoup beaucoup la littérature américaine, et d'ailleurs j'ai essayé de j'ai supprimé la ponctuation donc dans les dialogues, justement parce que j'ai vu beaucoup ça en littérature américaine, et on est tout de suite à fond dans le sujet, je veux dire, il n'y a plus. On parle à un tel moment, les dialogues sont presque physiques aussi, puisqu'ils sont intégrés de manière. Oui, j'aime énormément ce côté. Mais je n'ai pas voulu m'appuyer sur rien. Hein. J'avais cette histoire en tête, mais je n'avais pas la fin. Et donc, j'ai écrit ça l'hiver dernier, dans une maison qui était. Enfin, la maison. Où j'étais, qui était assez sombre et froide, Ben, ça a été terrible. Le moment où je me dis, je pourrais sauver mon personnage. Et on se dit, je ne le fais pas. C'est moi qui pourrais tout changer. Mais je dis, je ne le fais pas parce qu'on ne peut pas. C'est le cours des choses, c'est le destin. C'est, là, tout était en route depuis le début. Il faut bien que ça arrive. Je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas dire, faire une jolie petite fin. Là, ce n'est pas possible. Et je pleurais devant... J'ai mon ordi sur la table de la cuisine et je pleurais en me disant... Mais il faut le faire, il faut y aller. Ouais. Mais j'avais honte après. Hein. Et après, pendant longtemps, j'ai dit que je détestais ce livre, je le détestais, que je ne pouvais pas le voir, parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut être un salaud parfois.
Mais c'est vrai que ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, vous n'aviez pas décidé d'avance de la fin. Parce que petit à petit, on sent quand même à la lecture, au début, on ne sait pas, c'est extrêmement ouvert. Et puis au fur et à mesure, et à partir du milieu du livre, il y a effectivement quelque chose qui s'organise un peu comme une tragédie grecque. C'est-à-dire qu'on voit en fait la tragédie arriver. Et effectivement, on voit le fil d'un destin là, qui forcément va aller jusqu'au bout. C'est peut-être ça, au moment de l'écrire, il y a un moment donné où vous pouviez d'une certaine manière plus faire autrement. C'était difficile de la sauver au dernier
moment. Oui, sans doute. De toute façon, c'était dès le début. Hein. Si je mets cet hiver où il y a déjà une menace qui pèse sur elle, c'est que cette menace va peut-être... Bon. Si je l'ai mis, il devait y avoir une raison. Autrement, cet hiver aurait été un peu ennuyé, un peu long. On se serait dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? On s'en fout de sa vie 10 ans auparavant.
Puis il y a le feu. Alors là, c'est compliqué aussi pour en parler sans dévoiler la fin, mais c'est vrai que le feu est extrêmement important. Ces femmes sont des femmes de feu, elles ont le feu en elles. Et voilà, puis il y a un moment donné, il va y avoir, du fait de la chaleur de l'été, il va y avoir le feu aussi, le pays va s'embraser. Donc ça, c'est très important, ce thème du feu tout au long du roman.
Oui, le pays va prendre feu comme à l'image du feu. C'est comme l'image du feu qui brûle dans tous ces gens, mais cette fois c'est le pays qui gagne, qui ronge petit à petit. Oui. Et ça va arriver d'un coup, avec le premier drame, qui est comme le détonateur, c'est le tac. Et après ça continue.
D'ailleurs, j'avoue que quand j'ai commencé le livre, je comprenais pas la couverture. Pourquoi une forêt qui est en train de brûler sur la couverture, on comprend après. Alors je voudrais terminer par l'écriture, parce que c'est un livre qui est magnifiquement tenu sur le plan de l'écriture. Peut-être que c'est pour ça que j'ai encore préféré Au Grand Marin, parce que je trouve que là, il n'y a jamais le moindre relâchement. C'est-à-dire qu'il y a une trajectoire comme ça, à la fois de construction et d'écriture, qui tient jusqu'au bout, impeccable. Il n'y a pas un paragraphe en trop. C'est vraiment époustouflant. C'est une écriture assez âpre, économe de ses moyens, plutôt sèche, mais par moments, elle se libère, cette écriture. Et vous pouvez aller, comme dans Le Grand Marin d'ailleurs, jusqu'au lyrisme. C'est-à-dire qu'en fait... Il y a des moments, il y a la poésie qui arrive, il y a des fulgurances d'images. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très difficile à définir. Je voulais savoir comment vous travaillez, parce que c'est effectivement quand même une écriture assez âpre, assez sèche, mais par moments, elle se permet, elle s'ouvre, elle explose d'une certaine manière la phrase par ses images, par sa poésie en fait.
Alors peut-être que... Le lyrisme, c'est peut-être plus le soir que ça me prend. Ou tout d'un coup, à un certain moment, là, il y a un truc qui me vient, là, aussi, oh, j'aime bien cette musique, là, ces mots, là, waouh. Et autrement, ben, il y a différentes heures du jour. Hein, le matin tôt, c'est bien pour ce qu'on a. Les choses neuves arrivent. Alors peut-être que oui, c'est peut-être bien pour l'écriture bien, bien sèche, bien âpre, là, parce qu'on a la tête toute. Toute claire, toute vide, toute propre de la journée, quoi. On n'a encore rien, on sort du sommeil. Après, dans le courant de la journée, quand on commence à être fatigué, il faut plus s'occuper plus un peu du ben, le côté terre à terre, de ce qui est correction, de ce qui est... Et puis après, en fin de journée, là, on se laisse aller, mais vraiment, on se laisser aller. Tout d'un coup, on va écrire un dialogue, et ce dialogue, on ne sait pas forcément où le mettre, mais c'est comme si les personnages étaient devenus, ils étaient devenus presque vivants, ils avaient leur propre... Alors, on sait ce qu'ils vont se dire, après, on se dit, le plus dur, ça va être de mettre ça à une place où ça tiendra. Donc voilà.
Et vous avez placé le livre sous le signe de la poésie quand même, puisqu'en exergue, vous avez mis un extrait de Michaud, de Poteau d'Angle, « Je vous écris d'un pays lointain ». Il faut que vous le sachiez, souvent les arbres tremblent. Donc d'emblée, quand même, il y a quelque chose, il y a une intention quand même. C'est, le livre, il se place sous le signe de la poésie.
Oui, oui, j'espère. J'aurais aimé mettre le poème en entier, mais il est tellement long. C'est un poème tellement étrange et fou dans ce pays. C'est une contrée reculée, on ne sait pas où c'est, des hommes qui sont comme des fauves et qui veulent vous guetter au coin. Et ça serait très bien allé, mais il faisait au moins 3 pages, donc...
Oui, pour une exergue, ça aurait été un peu long. Alors, il nous reste quelques minutes, et j'imagine que les uns et les autres, vous souhaiteriez poser des questions à Catherine Poulain. Non, ben voilà, c'est formidable, madame. Dans votre premier roman. Donc madame dit, dans le premier roman, il y a une femme, dans le second, il y en a deux. Est-ce que petit à petit, on va arriver à un roman où les femmes seront majoritaires? C'est ça?
Et les hommes minoritaires.
Et les hommes minoritaires par voie de conséquence.
Oui. Oh, ben, j'ai pas fait exprès. Hein. Mais il faut mettre un peu de... Le côté bien un peu brut de là, et ben, il faut un peu des... Je ne sais pas que les femmes ne peuvent pas être brutes, elles aussi. Mais je veux dire, ben c'est... Puis moi, j'aime bien ces univers. Ça m'intéresse de parler de ces univers où... Oui, un peu brutaux des fois, c'est vrai. Parce que de temps en temps, Cassio, il a beau aimer sa Rosalinde. Tac, 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 il tape la tête par terre, quoi.
Oui.
C'est l'amour. Ça va en choquer plus d'une et d'un, je crois. Mais mes personnages derrière ont une autre... Justement, ils ont une autre... Ils sont un peu bruts de pomme et ils ne savent pas exprimer parfois leur amour autrement que comme ça. C'est... Bah, ouais.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ambiguïté de Rosalind. Est-ce que quelqu'un d'autre veut la parole, poser une question ou faire une remarque? Monsieur, bonjour.
Bonjour. Bien sûr, je n'ai pas lu votre nouveau livre, mais j'ai lu Le Grand Marin. Et je voudrais vous demander si un peu vos personnages vont trifouiller les entrailles comme vous le faites avec les poissons dans Le Grand Marin, où vous vraiment vous les montrez étripés, et puis avec les sentiments également, tout étripé, etc. Je voudrais savoir si avec les fruits et légumes, vous faites pareil.
Non, après le succès du Grand Marin, je me suis dit, il faut absolument que je passe à autre chose. Alors, il n'y a pas de corps à corps avec des poissons. Bon, des corps à corps avec des fruits, je ne crois pas qu'on puisse parler de ça. Il y a quelques corps à corps entre humains, ça c'est sûr. Mais non, il n'y a pas de grande tuerie. Pas vraiment, hein.
Non.
Ça, on verra.
Madame, je vous en prie, bonjour.
Oui, bonjour. Et le titre?
Le cœur blanc.
Oui.
Vous voulez qu'on élucide?
Oui. Oui. Si,
pourquoi le cœur blanc? Donc, on disait tout à l'heure dans la relation avec Ahmed, au début, c'est lui qui lui donne ce nom, donc... Voilà, peut-être dire un peu plus. C'est au début du livre, de toute façon.
Parce qu'il dit, le cœur blanc, c'est le cœur pur. Ahmed est musulman et Rosaline débarque, mais vous verrez bien. Hein. Mmh. Et il lui dit, Dieu a vu que tu avais le cœur blanc. Qu'est-ce que c'est, le cœur pur? Et ça avait toute l'histoire, cette histoire du cœur blanc. Le cœur blanc, est-ce qu'on a encore le cœur blanc? Peut-être que c'est... Ça la poursuit quand même. A-t-elle encore le cœur blanc? Mais c'est pas... Alors c'est un titre qui fait... J'ai presque trouvé que ça faisait mièvre. Mais quand on lit l'histoire, on se rend très vite compte que l'histoire n'est pas mièvre du tout, bien au contraire. Moi, j'aurais aimé amener... Au début, je voulais appeler ça les abricots d'Urbu. Et après, la splendeur de l'été. Parce que dans le mot splendeur, il y a quelque chose d'impitoyable. Et justement, c'est pas splendide, c'est, ça tourne. Mais je trouve le cœur blanc, c'était... Après, on est tombé sur le cœur blanc et c'est vrai que c'est un beau titre.
C'est un beau titre et ça donne tout de suite la dimension poétique du livre aussi. Hein. Quelqu'un d'autre ? Ah, madame, pardon, vous ne voyez pas. Donc, madame qui est bien cachée, là.
Mais j'ai écouté.
Bonjour, madame.
Bonjour. Alors, moi, j'ai adoré le Grand Marin. Et quand j'ai lu Le Cœur Blanc, ouf ! J'ai été mal à l'aise tout le long du livre, parce que c'est vraiment dur. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit ! Vous avez une écriture, mais magnifique, magnifique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Voilà.
Mais je vous remercie.
Merci, madame. Je ne veux pas qu'il y ait de regrets, personne. De toute façon, on arrive au bout de l'heure qui nous est impartie, comme on dit. Il y a encore quelqu'un ? Vous avez repéré quelqu'un ? Non ? Parce que je vous voyais partir avec un air décidé. Donc, il y a peut-être quelqu'un que j'ai loupé ? Non. Écoutez, en tous les cas, si vous me permettez, c'est vraiment un livre exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus beaux livres de la rentrée, Le Cœur Blanc de Catherine Poulain, qui paraît. Alors, là, vous avez de la chance parce que vous pouvez vous le procurer dès aujourd'hui parce qu'il sera en librairie que la semaine prochaine. Donc, il paraît aux éditions de l'Olivier. Catherine Poulain, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Merci de votre attention.